My gang will get you.
Les enfants du Nouveau Monde, une émission de Céline Elodie. Même si on nous en parle très peu, le monde est rempli de belles choses. Des humains en marche, des initiatives pleines de bon sens et d'humanité. Nous sommes tous une étincelle de cette transformation. Avec les enfants du Nouveau Monde, partons à la rencontre des terriens d'ici et des humains de là-bas, des enfants de la Terre qui aiment notre planète, qui croient en leurs rêves et qui créent un monde meilleur par leurs actions quotidiennes. Aimer l'humain, humer l'humus, humilité, avec humilité. Bienvenue sur Terre, enfants du Nouveau Monde.
Hey man, you want girls? I'll show you a good time. This place has everything. Come on, I show you.
Bienvenue, chers auditeurs et chères auditrices. Vous êtes à l'écoute des enfants du Nouveau Monde. Pour ce mois de mars qui nous annonce l'arrivée du printemps, j'ai invité à nous rejoindre Claire Desvignes, qui est horticultrice, donc spécialiste des fleurs, intéressée par la permaculture, productrice d'élixirs et de produits de santé. Elle s'intéresse aussi à la naturopathie. Et avec Claire, nous allons parler de la co-créativité. Quelque chose d'assez nouveau, moi-même je viens seulement d'en entendre parler, de découvrir ce que c'est. La co-créativité, c'est de créer avec les forces de la nature, c'est-à-dire de se mettre ensemble pour œuvrer dans le même sens. Bonjour Claire Desvignes.
Bonjour.
Bienvenue. Je suis ravie de parler de ce sujet parce que du coup là il s'agit d'œuvrer avec des forces invisibles.
Mm-hmm.
Et bien souvent dans notre société, tout ce qui est invisible n'existe pas.
Et oui. Depuis quelques siècles, on va dire depuis 3-4 siècles, et puis même avant, hein, avec l'Inquisition, etc., tout ce qui est irrationnel et qui n'est pas palpable suscite des peurs, des interrogations, du rejet, du déni, des projections de sorcellerie, etc. On est dans une culture très très imprégnée négativement de ces considérations, on va dire ça comme ça. Et en effet, co-créer avec la nature, pour nous, ça ne coule pas de source.
Pour notre société, ça ne coule pas
pour
de source.
Pour notre société, ça ne coule pas de source.
Donc là, il y a tout un savoir à aller se réapproprier, parce qu'il y a sans doute des sociétés qui avaient leur druides, leurs sorciers, etc., qui étaient en lien avec l'invisible, en lien avec les forces de l'invisible, et qui faisaient ce pont entre le commun des mortels et puis ce monde invisible. Mais aujourd'hui, bon, voilà, tout ça a bien disparu.
Bah surtout en Occident, chez nous. Hein. Sinon, bon, c'est évident que les peuples premiers vivent toujours avec cette connexion et que, bah, heureusement, sur la planète, il y a encore des cultures et des peuples qui bénéficient de cet ancrage, quoi. Hein. Mais nous, occidentaux, avec un mental surdéveloppé, on est loin de cette reconnexion et de cette sensibilité. C'est pour nous quelque chose à redécouvrir, à reconnaître, à accepter. Aussi, parce que y a tout un pan d'acceptation, hein, je pense, hein, d'accepter sa propre nature, d'accepter la connexion avec la nature extérieure aussi, hein, mais de toute façon, c'est inséparable. Hein, notre propre nature et la nature extérieure sont inséparables. Et bah, pour nous, c'est un apprentissage, hein, on n'est pas éduqués là-dedans, hein, du tout. On est éduqués dans de la séparation.
Mmh. Et alors, vous, comment vous avez, à travers votre parcours, vous avez conscientisé qu'il existe d'autres plans d'existence qui sont invisibles et avec lesquels on peut co-créer? Comment vous êtes arrivé à ça, à cette découverte?
Par le hasard, comme on dit, hein, quand on... Quand on ne sait pas trop comment les choses se passent, moi je vois maintenant le fil rouge, hein, après 20 ans, je comprends des tas de choses, mais c'était une rencontre en fait qui a été le catalyseur pour moi. Je suis née en ville, j'ai pas de grands-parents ni de parents qui ont eu de jardin, je peux pas te raconter de belles histoires sur ma connexion avec la nature, hein. J'étais en région parisienne et Dieu sait si c'est pas vraiment un coin de nature très très déclaré. Mais j'ai quand même eu toujours une sensibilité, même quand j'étais gamine, hein, j'étais hyper sensible. Les enfants qu'on sait pas dans quel cases rangées parce qu'ils ressentent trop les choses et que on trouve ça pas normal, quoi. Donc j'étais un peu dans cette
De quel type des ressentis, de quel type?
Oh bah de sentir empathiquement les gens, de voilà, de voir des choses qui, quand j'étais petite, m'impressionnaient parce que moi, je savais pas mettre des mots dessus et puis que mes parents n'étaient pas des parents ouverts à ça. Donc, je voyais des choses et je savais pas ce que c'était. Donc, bon, c'était pas très rassurant.
Des choses de quel genre?
Oh, bah, des présences, des formes. Je percevais autour de moi des choses... que je reconnaissais pas et puis dont on me parlait pas, quoi.
Parce que peut-être vous étiez la seule à aller voir.
Bah c'est possible, c'est possible, hein, y a des chances que je fasse ça. Donc bon, voilà, je pense que j'avais une hypersensibilité et je l'ai toujours, hein, Dieu soit loué, qui me prédisposait à sentir autre chose, mais d'une façon complètement informelle et non reconnue. Voilà.
Donc ça devait être plutôt inquiétant de ressentir tout ça sans, sans savoir ce que c'était et que personne ne puisse vous accompagner là-dedans.
Voilà. Bon, mais enfin, la phase s'est passée. Et la découverte de ce grand domaine de la nature et de la co-créativité, je l'ai surtout conscientisé à partir des années 94-95, hein, une époque où j'étais déjà horticultrice.
D'accord.
Mais dans ce chemin d'horticulture, j'ai vécu une progression aussi, hein, qui allait du conventionnel à l'agriculture bio, à la permaculture, c'est-à-dire la culture synergétique qui recouvre une façon très très respectueuse de cultiver la terre. Il y avait une progression dans mon cursus jusqu'à cette fameuse journée de 1er avril 95, donc c'était un joli poisson d'avril, où à l'époque j'étais jardinière dans un centre d'accueil qui proposait des stages de transformation personnelle, yoga, qigong, etc., des tas de choses. Moi, dans mon petit domaine d'agriculture, hein, puisque je faisais le jardin et potager, et décoratif, hein, du centre, qui avait des très beaux parterres de fleurs, etc. J'ai rencontré une dame qui m'a parlé de cette façon de sentir et de communiquer avec la nature. Et ça s'est passé d'une façon complètement incongrue. Hein, c'est-à-dire qu'à la fin de l'Assemblée Générale, il y avait une dame qui attendait, en fait, de pouvoir me parler. Donc, elle a attendu jusqu'à temps que tout le monde soit parti. Puis, elle est venue me voir. Et puis, elle m'a dit, tu sais que t'as des elfes tout autour de la tête. Alors, bon, à l'époque, j'étais pas du tout, mais alors, concernée par ce genre de choses. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Et elle m'a dit, écoute, si tu veux, je te prête ce bouquin. Tu me dis ce que t'en penses. Et elle m'a donné un bouquin qui s'appelle le MAP, Medical Assistance Program, de Michael Smallwright, donc.
Michael Smallwright, parce que voilà, c'est vraiment elle qui parle de co-créativité.
Voilà, hein, de cette forme de co-créativité.
D'accord, hein, donc c'est une auteure américaine.
C'est ça.
D'accord, et le MAP, c'est un livre qui...
Qui parle de la co-créativité, mais par rapport surtout à la santé humaine.
D'accord.
Hein, c'était pas encore les livres sur le jardinage. Et bon, voilà, je me suis dit, bon, d'accord, je vais commencer à lire en rentrant à la maison. Et je l'ai commencé à 00h30 et j'ai pas pu arrêter, mais jusqu'à 6h du matin. Je n'ai pas pu m'arrêter. C'est la première fois et la seule fois de ma vie où j'ai lu un bouquin d'une seule traite. C'était impossible de m'arrêter, tellement il répondait à des tas d'interrogations et de choses que je sentais depuis des années et sur lesquelles j'arrivais pas à mettre de termes, de concepts, etc. Et ça a été, mais pour moi, une... Je me suis dit, ah, enfin, quelqu'un qui parle de ce que je sens, quoi. Ouf. Et ça a été et une révélation et une renaissance. Vraiment, vraiment. Donc, le lendemain, je suis retournée voir cette dame qui m'a dit, écoute, si tu veux, on fait un équilibrage du jardin. Tout de suite, on peut commencer. Moi, j'ai déjà appliqué la méthode. Et là, donc, on a fait avec cette dame un premier équilibrage de terrain, hein, un équilibrage de sol. Puis ça a démarré, mais au quart de tour, comme ça, quoi. Ça y est, du jour au lendemain, hein, un bouquin, un équilibrage. Et pour moi, ça a été tellement révélateur et tellement puissant que je me suis dit, allez, je me lance, et je me suis lancée tout de suite, en fait.
Alors, un équilibrage de jardin, pour ceux qui ne savent pas, quand même, moi, par exemple, je me demande ce que c'est.
Et oui, il y a de quoi
Alors,
se demander.
Qu'est-ce que c'est, un équilibrage de jardin?
Alors, ce qu'il faut conscientiser, en fait, c'est que dans cette méthode, hein, de co-créativité avec la nature, telle que Michael Smallwright le présente, parce qu'il y a on peut dire plusieurs façons. C'est comme des langages, hein. Je veux dire, la co-créativité avec la nature, c'est large, hein. Il y a des tas de gens partout qui font ça sur la planète.
À leur façon, selon leur culture, leur rite, etc.
C'est ça. Bon, elle a élaboré, on va dire, avec ses guides, une certaine méthode, voilà, de co-créativité avec la nature. Donc, comme toute méthode, c'est assez structuré. Et ce premier équilibrage que j'ai vécu avec cette personne, c'est quelque chose de très structuré où, avec le déva du sol et avec différentes présences qui nous accompagnent, on choisit, on teste des nutriments, donc des amendements. Si vous voulez.
Pour ceux qui ne savent pas, nutriments, amendements, c'est tout ce qu'on va apporter au sol pour le fertiliser.
C'est ça. Donc, par exemple,
il y a plusieurs choses qu'il va falloir définir pour qu'on comprenne bien ce dont on parle. Tout à l'heure, on a parlé d'elfes, que cette femme avait vu des elfes autour de votre tête. Là, on parle des devas. Donc ça, tout ça, ce sont différentes forces invisibles de la nature dont on va parler dans un deuxième temps. Mais d'abord, pour qu'on suive bien l'explication, donc. Au niveau du sol, là, vous alliez tester ces différents amendements, savoir qu'est-ce que le terrain a le plus besoin,
en fait.
Est-ce qu'il a besoin qu'on lui mette du crottin, des fertilisants organiques animaux, ou alors plutôt du compost,
ou des oligo-éléments, différents nutriments. Donc là, on est vraiment dans du moléculaire, la matière. On n'est pas seulement dans des elfes, etc. Et c'est le propre de cette méthode, en fait. La base de la co-créativité avec la nature, selon cette méthode, donc de Paralandra, puis celle que je pratique aussi maintenant, c'est justement d'allier, de rassembler dans une même dynamique d'action différents plans de conscience ou différents groupes d'intelligence de la vie, qu'ils soient visibles ou invisibles, les deux, puisque moi je suis visible, je suis jardinière, je suis visible, le sol il est visible, les plantes elles sont visibles, les minéraux ils sont visibles, les animaux ils sont visibles, etc. Enfin voilà. Plusieurs groupes règnent de la nature visible et d'autres invisibles. Alors invisibles nos yeux.
D'ailleurs, il y a des invisibles dont aujourd'hui on ne doute plus, type les microbes, les bactéries, etc.
Voilà.
C'est un exemple, une preuve que l'invisible existe.
Tout à fait. Et ils font partie aussi, puisque le sol est plein de micro-organismes, que ce soit des actinomycètes, des virus, des champignons, des bactéries.
Et comme on le sait aujourd'hui, pour qu'un sol soit fertile, il faut qu'il y ait justement une harmonie, un équilibre de tous ces êtres vivants, de toutes ces présences organiques pour que ça crée la fertilité et donc de belles fleurs et de beaux légumes, etc. Donc là, vous avez concrètement demandé à des êtres invisibles qu'est-ce qu'ils préféraient qu'on mette dans le sol.
Voilà, équilibrer ce sol, de quoi ce sol avait besoin. Voilà.
Alors ça répondait comment? Comment vous procédez? Par un pendule, par des baguettes,
comme
des sourciers?
Alors il y a plusieurs façons de s'y prendre. Moi je parle de test intuitif, c'est-à-dire que je ne suis pas fermée à une seule méthode. Et dans les stages que je propose, j'accompagne les gens pour qu'ils découvrent leur propre test intuitif. Donc ça peut être un test corporel, c'est-à-dire une façon de ressentir dans son corps. Comment se manifeste un oui, comment s'exprime un oui ou comment se manifeste un non.
Voilà. D'accord.
Mais ça peut être aussi au test kinésiologique. Dans ses livres, Michaels Morite, elle ne parle que du test kinésiologique, elle réduit à ça.
La kinésiologie, c'est aussi à travers le corps.
C'est à travers le corps, c'est ça.
C'est au niveau de la résistance du bras, c'est pour les gens qui ont déjà fait des séances de kinésiologie, ça passe à travers le corps aussi, c'est là où on pose des questions au corps.
C'est le corps physique qui va finalement manifester comment s'exprime un oui ou comment s'exprime un non. Et on peut utiliser plusieurs formes de tests kinésiologiques.
On peut être complètement surpris parce que c'est plus une histoire de mental. On ne peut pas savoir à l'avance. C'est pas forcément ce qu'on veut, c'est pas forcément ce qu'on avait imaginé, c'est pas forcément ce qu'on avait projeté. Et puis on est surpris soi-même de voir notre corps nous donner une réponse.
Voilà. C'est ça. Le but, c'est ça, c'est de squeezer le mental, c'est-à-dire d'être hors du concept et hors de la projection mentale de ce que l'on pourrait imaginer, dans ce cas-là, des besoins du sol, par exemple.
Alors là, donc, vous avez fait confiance aux réponses qui sont apparues.
C'est la première étape, c'est de faire confiance, c'est de se lancer.
Ce qui ne doit pas être forcément facile, parce que dans quelque chose d'assez nouveau comme ça, j'imagine que le doute peut vite arriver de se dire est-ce que c'est pas un peu fou d'écouter cette réponse qui m'est arrivée comme ça, douter de soi-même, quoi, douter de
oui, de ça c'est pour tout le monde. Tout le monde doute. Hein. Moi, quand j'ai commencé, surtout que j'ai commencé toute seule. Hein, bon, maintenant les livres ont été traduits en français, donc beaucoup de gens, enfin, ils ont été traduit en 2005.
Les livres de Michael Smallwright.
Les livres de Michael Smallwright. Moi, je les ai lus à l'époque en anglais. Je me suis avalé les 5 bouquins en anglais.
Ah, et motivée quand même.
J'étais motivée, oui. Mais je pense que ça passait à d'autres niveaux de compréhension parce que je ne suis pas complètement bilingue, mais j'ai tout compris. Donc,
les elfes vous ont aidé.
C'était assez merveilleux.
C'est pour ça que c'était tout autour de votre tête. Ils faisaient toute une série de traducteurs.
Ils devaient traduire.
Ouais. Comme une salle de l'ONU.
Donc, j'ai commencé avec les bouquins et j'ai appliqué. Les protocoles que Michael décrit dans ses livres, quoi, qui sont très pédagogiques. Hein, faut vraiment l'avouer. Elle explique de plusieurs façons différentes la même chose et suivant comment on est formaté au niveau de notre cerveau, de notre format d'esprit, différentes compréhensions. Donc, c'est très pédagogique. Voilà. Et ce test, oui, c'est la première étape. Hein. Il faut se lancer. En fait, c'est un jeu. Ce qu'il faut se dire, c'est que de toute façon, il y a zéro risque. Hein. Si je me trompe dans un test par rapport à un nutriment, par rapport à un élixir...
A priori, je ne vais pas saccager mon jardin. Quoi,
exactement.
Hein. Ce n'est pas très grave.
Exactement.
Hein,
et de toute façon, cette pratique, comme beaucoup d'autres, hein, se construit sur la confiance et la pratique. Plus on exerce, hein, c'est comme faire du vélo, chanter, faire son pain, enfin n'importe quoi. Quoi. Mm-hmm. Hein, c'est une pratique. Donc, il faut le faire. Voilà.
Et plus on s'exerce et plus
on a de
développe
résultats,
sa sensibilité.
Et plus on développe et sa sensibilité et sa confiance.
Mmh, parce qu'on voit que ça fonctionne.
Si je suis quelqu'un qui a beaucoup douté et j'ai eu besoin d'années et d'années et d'années pour prendre confiance et puis être tellement émerveillé des résultats et tellement... je trouve pas vraiment le terme, hein, peut-être le plus...
Émerveillé, c'est déjà fort.
Oui, sidéré, enfin c'est incroyable. En fait, hein, on peut pas imaginer. Enfin, moi, j'étais loin d'imaginer en appliquant ce premier processus d'équilibrage du sol, l'univers qui allait s'ouvrir devant moi, c'est ahurissant. On peut pas imaginer à quel point. Déjà, on est accompagné. Ça, c'est déjà super réconfortant parce qu'on n'est pas tout seul, quoi. Mais voilà,
parce qu'on va en parler juste après, mais ces présences invisibles sont là donc au service de la création de l'humain, de ce
elles sont là. Après,
en tout cas, on peut au service. En tout cas, on peut faire avec.
On peut travailler avec ensemble si on le demande, et on peut faire avec si c'est faire ensemble dans une même direction au service de la vie.
Hein, c'est-à-dire que c'est au service de la vie, non pas au service de l'humain.
C'est pas une technique de manipulation.
Au service
voilà,
de la
c'est
vie.
Ça. C'est pas au service de l'humain. Ça marche pas.
Alors, en parlant de la vie, on va s'écouter la musique de la comédie de la vie de Paolo Conte. Comédie.
Oh, va, 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 va. Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, 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 ah, comedy, comedy orchestra illusa Napoli, e poi sgridata Minneapoli. Comedy, comedy, don Juan. Ta-da-da-dam, ta-da-da-dam, ta-da-da-da-da-da-da, ta-da-da-da-da-zam. La comédie d'un jour, la comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie, la comédie. Va, 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 va. Ma cos'è? La luce è piena di vertigine. sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, 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 ah, comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli. Comedy, comedy, don't you? Parlami, dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, 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 ah, comedy, comedy orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel. Comedy, comedy, don giù, za taradem, tadem, tadritatatem, tadetadetadzem, la comedy don giù. La comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie, la comédie. La 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 la.
Vous écoutez Radio 16 sur le 99.2 et nous sommes dans les Enfants du Nouveau Monde avec Claire Desvignes, un nom prédestiné, hein, Claire, pour travailler dans le monde de la nature.
Peut-être, oui.
Donc, avec vous, Claire, aujourd'hui, on parle de la co-créativité avec la nature. La co-créativité avec la nature, c'est votre domaine, non seulement parce que depuis le début, vous étiez intéressée à l'agriculture, l'horticulture, la permaculture, donc dans le monde des jardins, des plantes, de la santé aussi, de comment ces plantes peuvent nous aider à équilibrer notre santé, nous les humains, et puis peut-être les animaux aussi.
Oui, bien sûr. Hein, les élixirs, notamment, peuvent être utilisés pour tout le monde, hein, pour les plantes, pour les animaux, pour les humains. Enfin, ça se rapproche de l'homéopathie. Quand on est dans le domaine vibratoire et informationnel, on peut travailler sur tous les niveaux.
Donc, les élixirs, c'est... Qu'est-ce que c'est exactement ?
Un élixir, c'est une imprégnation vibratoire et informationnelle de l'identité spirituelle d'un être dans l'eau.
Ça, c'est compliqué, là, déjà. Là, déjà, il y a déjà pas mal d'auditeurs qui décrochent. Alors, plus simplement, comment on fabrique un élixir ?
Alors, on fabrique un élixir dans de l'eau.
Oui.
Hein, donc, la technique de base assez commune que beaucoup de producteurs utilisent, c'est la technique de Bach, hein, c'est-à-dire qu'on va cueillir des fleurs.
Hein, les fameuses fleurs de Bach.
Voilà. Alors bon, les fleurs de Bach, c'est 37 élixirs, hein, mais maintenant, il doit y avoir entre 2000 et 3000 élixirs à peu près. Hein,
mais c'est dans de l'alcool, les fleurs
alors,
de Bach.
L'alcool ne joue le rôle que de conservateur.
Ah, d'accord.
Hein, le support, c'est l'eau.
D'accord.
On pourrait très bien ne faire des élixirs que dans l'eau. Après, d'accord, la plupart des producteurs utilisent l'alcool pour pouvoir conserver les élixirs plusieurs années et stabiliser, on va dire, l'eau, quoi, hein, puisque l'eau peut tourner à un moment ou à un autre.
Oui. Donc dans le cas des fleurs de Bach, ce sont des fleurs qui ont été mises dans de l'eau, qui ont donc imprégné cette eau.
Voilà, de leur identité, de leur message. Mm-hmm. Ça se fait évidemment à l'aide du soleil. Hein. Il faut solariser un élixir.
Hein, donc on le laisse au soleil.
On le laisse au soleil plusieurs heures. Et ensuite, on le filtre, on obtient ce qu'on appelle l'élixir mère, que l'on peut conserver avec de l'alcool ou pas. Hein, ça, c'est un choix. Et cet élixir va être utilisé de différentes façons, soit directement en absorbant les gouttes, soit ça peut être mélangé aussi dans l'eau du bain, soit ça peut être utilisé en compresse sur une partie du corps, soit ça peut être utilisé dans des huiles de massage. Enfin, il y a différentes façons d'utiliser les élixirs, ou éventuellement en transfert aussi énergétique, ou sur un patch qu'on porte sur soi, enfin bon, des tas de techniques différentes.
Donc aujourd'hui, vous en fabriquez donc des élixirs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre cette première découverte de la co-créativité? On parlait tout à l'heure de l'équilibrage du jardin. C'était la première expérience que vous avez faite, où vous avez pris conscience de ces différents plans de vie, d'existence dans l'invisible avec lesquels vous pouvez collaborer. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là et puis maintenant la création des élixirs?
Il s'est passé beaucoup de choses, mais très progressivement. Moi, je suis quelqu'un qui avance doucement mais sûrement. Donc, après cette rencontre avec ce monde que je pressentais mais que je ne conscientisais pas complètement, et que maintenant je suis capable évidemment de recevoir complètement, il s'est passé beaucoup de pratiques, beaucoup de pratiques culturelles, on va dire. J'ai énormément expérimenté dans le domaine du jardinage, et je pense que c'est ce qui m'a donné et la confiance et l'ancrage de cette pratique. Et puis, au bout de quelques années, en 96-97, j'ai aussi fait une formation de naturopathie. Donc là, toujours dans le domaine de la nature, mais plus dans le domaine du soin. Et au cours de cette formation en naturopathie, j'ai expérimenté la fabrication des élixirs. D'accord. Puisque les personnes avec lesquelles mes professeurs étaient très férus d'élixirs. Donc, j'ai commencé tout bêtement comme ça, dans la pratique, dans le stage dans lequel j'apprenais. On nous a fait faire un élixir et pour moi, ça a été tellement merveilleux, cet élixir, que...
Vous voulez dire au niveau des effets qu'il a eu?
Au niveau de la fabrication, ce que j'ai vécu quand je l'ai fait, parce que j'ai vraiment senti l'accompagnement des plans invisibles et j'ai vraiment senti l'esprit de la plante. Et pour moi, c'était tout nouveau de sentir ça de façon si décuplée. Et si précise, parce que en tant qu'horticultrice et que jardinière, j'étais proche des plantes, évidemment. C'est toujours quelque chose que j'ai adoré faire, mais assez vaguement. La connexion, je la sentais, mais de façon plutôt vague. Et là, c'est au cours de la fabrication de cet élixir, j'ai vraiment senti comme une rencontre, si vous voulez. C'est la différence, la différence entre, par exemple, je me promène dans une foule, et je sens qu'il y a plein de gens autour de moi, et puis je rencontre personne en particulier, et puis tout d'un coup je fais un élixir, et je rencontre quelqu'un, et je discute avec, et je sens, et je communique, etc. etc. Donc il y avait cette précision-là qui était très très nouvelle.
Vous avez communiqué avec l'esprit de cette plante.
Voilà.
C'était quelle plante?
Alors à l'époque, ça devait être la salicaire, le premier élixir que j'ai fabriqué, je pense que c'était la salicaire.
Que je ne connais pas.
Qui est une plante sauvage, assez répandue. Et c'était un gros déclic, évidemment. Donc, j'ai continué à en fabriquer. Alors, j'en ai fabriqué pendant 2-3 ans de façon assez instinctive et aléatoire, comme ça, en me laissant porter par les rencontres, les attirances. Je sentais qu'une plante m'attirait, je faisais un élixir et puis c'est tout. Et puis, à l'époque, ma sensibilité n'était pas encore assez développée pour entendre et comprendre ce que me disait en détail la plante. Et puis, c'est au fur et à mesure des années que, en fait, cette hypersensibilité s'est structurée, définie, et m'a permis d'entendre. Maintenant, quand je fais un élixir, je sais ce sur quoi travaille cet élixir. J'ai assez de connexion avec la plante et l'esprit de la plante pour sentir directement... ce sur quoi travaille cette plante.
Donc la vertu de cet élixir, à quoi il va servir pour soigner quelle maladie, pour apporter quelle...
Alors, c'est pas des maladies, là on est vraiment dans une vision holistique. Les élixirs ne sont pas attribués
à des
symptômes.
C'est plus, donc c'est pas des maladies, mais c'est des tendances, ça peut être des tendances émotionnelles ou des choses comme ça.
C'est ça.
D'accord.
Voilà. Mm-hmm. Donc c'est un peu plus large.
Hein. Oui, puisque la maladie, en fait, n'est que le symptôme. C'est quand on a une tendance émotionnelle un peu qui va à l'inverse de la vie, émotionnelle ou pas que, mais bon, je vois essentiellement...
Comportementale, énergétique, voilà, etc.
Qui est nocif pour nous-mêmes, à force de d'avoir cette habitude, et puis au fur et à mesure des années, on finit par développer une maladie.
C'est ça.
D'accord.
C'est ça.
Donc le but n'étant pas de résoudre uniquement la conséquence, mais d'aller voir la cause. Quel est ce problème émotionnel
là, on a
à régler
la même démarche que l'homéopathie, voilà.
D'accord, ok, je comprends. Oui. Alors du coup, ce monde des plans invisibles qu'aujourd'hui vous pouvez plus sentir, plus voir avec plus de précision, est-ce que vous pourriez nous le décrire, nous en parler? Quels sont ces...
Alors nous le décrire, je ne peux pas vous le décrire parce que c'est un domaine infini, mais disons que dans la co-créativité telle que je la pratique et telle que les processus énergétiques sont considérés, on s'appuie principalement sur certains domaines, on va dire, certains mondes de ces plans invisibles. Hein, parce qu'il y a beaucoup, c'est un peu comme chez nous, il y a beaucoup de cultures sur la Terre, il y a beaucoup de langages différents. Ben dans les plans invisibles, on peut faire cette analogie, c'est-à-dire qu'il y a comme plusieurs langages, plusieurs plans de conscience, plusieurs mondes d'intelligence qui se manifestent. Et nous, en co-créativité avec la nature, on va... s'appuyer sur certains plans de conscience qui sont plus en lien avec la manifestation dans la matière, si vous voulez. C'est-à-dire que, bon, pour schématiser, je peux reprendre ce que Michael Smallwright explique dans ses livres.
Avec plaisir.
Peut-être pour les auditeurs, ce sera plus facile de se référer à des livres. Donc, elle parle d'un conning en quatre points, c'est-à-dire d'un travail.
Qu'est-ce que c'est un conning?
C'est une équipe. Une équipe co-créative en quatre points, sur lequel on va s'appuyer, sur certaines intelligences des dynamiques évolutives et certaines intelligences des dynamiques de manifestation. Donc pourquoi
Alors, qu'est-ce que c'est une dynamique évolutive et une dynamique de manifestation?
Donc la dynamique évolutive, ce sont les intelligences de la nature, de la vie, qui sont manifestées par la conscience.
D'accord.
Voilà, donc par... ça peut être l'âme pour nous, l'esprit pour nous, ça peut être l'esprit d'une plante, ça peut être... c'est tout ce qui est, si vous voulez, englobé dans la conscience. Alors, c'est très large, évidemment.
Parce que du coup, là, ça veut dire que les plantes ont conscience.
Bien sûr, bien sûr.
Parce que pour plein de gens, les plantes n'ont pas conscience.
Voilà, alors, il y a une confusion entre être vivant ou être conscient, souvent. Chez beaucoup de personnes. Là, dans la co-créativité avec la nature, on est dans un concept assez large qui est qu'à partir du moment où quelque chose existe, une conscience et une intelligence est manifestée.
D'accord.
On est dans une compréhension beaucoup plus large que le domaine du vivant qui respire, où il y a des échanges cellulaires, etc.
D'accord. Donc,
même
par exemple,
un minéral est vivant.
D'accord. Et ce placard, par exemple, il existe, il a une conscience?
Voilà.
D'accord.
Voilà.
Donc on part de ce principe, c'est-à-dire tout ce qui existe a une conscience.
À partir du moment où quelque chose est manifesté...
Quelque part, ça vient corroborer les thèses des atomes, qui disent que les atomes
sont
en mouvement perpétuel, même si on ne le voit pas.
Cette méthode, et si on veut parler de recherche scientifique, je peux donner plusieurs noms de scientifiques qui peuvent corroborer. Mm-hmm. Alors pas forcément la co-créativité avec la nature telle que Michael Smallwright ou Perry Landra le manifeste, mais...
En tout cas, de venir constater qu'il y a une manifestation mouvante ou...
Oui, il y a des scientifiques très connus qui en parlent en ces termes, en disant qu'avant la manifestation dans la matière physique, il y a un moule énergétique qui précède et qui donne naissance à une forme physique. Si vous voulez, c'est comme une réaction en chaîne où on va de la pensée de quelque chose à la manifestation de quelque chose.
D'accord.
Voilà. Et ces différents mondes d'intelligence ont différents rôles. Donc des manifestations évolutives qui ont plutôt un rôle de définir des buts, des définitions, pour être assez structuré, des objectifs.
Ça va être le capitaine, celui qui donne le cap.
Voilà.
Là où on va.
C'est ça.
D'accord. Hein.
Et puis, des dynamiques de manifestation qui, elles, vont plutôt avoir le rôle de traduire dans la matière comment ce qui a été défini dans des plans de conscience, on va dire...
De décision,
du domaine de la pensée, mm-hmm. hein, vont pouvoir se manifester.
Donc concrètement.
Là, on est plus dans du moléculaire et on est dans le monde des devas et le monde des esprits de la nature ou des élémentaires. Après, bon, il y a encore différentes... sous-tiroirs, enfin bon, bref, ouais. On va pas trop se perdre là-dedans, d'accord. Mais disons que ce sont toutes les intelligences de la nature qui sont en lien avec l'humain. Alors là-dedans, c'est très large, si vous voulez. Bon, moi, je veux pas trop rentrer dans le détail, parce que c'est plutôt afférent à nos croyances, oui. Et à notre culture. Mmh. Hein. Mmh. Alors peut-être les Indiens d'Amérique du Nord vont parler du grand mystère. Voilà, peut-être, je sais pas, dans le monde des chrétiens, on va parler des anges ou des archanges. Mais en fait, ça n'a aucune importance.
Oui.
Il n'y a pas besoin.
D'accord. Il n'y a pas besoin de savoir avec qui on co-crée, finalement.
C'est afférent. Hein. On ne peut parler que d'analogie, si vous voulez. Hein, parce que suivant où on est né, dans quel pays, dans quelle culture, on va le représenter de telle manière ou de telle manière.
D'accord.
Vous savez, c'est comme l'histoire,
cette
histoire indienne où vous avez trois aveugles qui touchent un éléphant, et puis il y en a un qui dit l'éléphant, c'est un espèce de gros cylindre. Alors il est en train de toucher la jambe de l'éléphant, et puis il dit mais l'éléphant, c'est juste un très gros cylindre. Voilà. Et puis il y en a un autre qui va toucher l'oreille, puis qui va dire non, mais tu te trompes complètement, l'éléphant, c'est un espèce de truc tout plat, là. Et puis un autre, le troisième, qui touche la trompe de l'éléphant, qui dit non, mais c'est comme une branche, hein. Un éléphant, c'est juste une branche. Voilà. Donc, tout ça pour dire, ça dépend de notre capacité de
perception.
Réceptivité et de perception.
Et la vérité ne nous appartient pas.
Exactement.
Elle est la
de
somme
toute façon, il n'y a pas
de chacun.
Vérité. Voilà.
Oui,
voilà. Donc, et ça, voilà. Michael l'explique bien dans ses livres, et moi, je suis tout à fait d'accord dans sa forme d'expression.
Ça requiert une grande humilité. Finalement.
Bien sûr.
De travailler avec ces plans invisibles.
Mais ils nous remettent à notre place. Hein. Mais à la fois, ils nous remettent à notre place dans le sens humilité, et puis à la fois, ils nous font découvrir notre place.
J'ai hâte de savoir quelle est notre place d'humain dans ce grand travail de la co-créativité. Mais donc, avant, on va s'écouter Mamadou Diabaté, donc une autre culture pour le coup, qui doit sans doute appeler les esprits d'une autre manière, avec la chanson « Djoula Fassa ». Thank you. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio 16 sur le 99.2. Nous écoutions Mamadou Diabaté. Ça faisait du bien, n'est-ce pas, Claire Desvigny?
Oui, tout à fait.
On est dans les enfants du Nouveau Monde et on parle de co-créativité aujourd'hui. Alors la co-créativité, qu'est-ce que c'est la créativité avec les plans de la nature, notamment les plans invisibles. Donc c'est un grand domaine d'exploration qu'on aborde aujourd'hui avec Claire Desvigny. Quelle est la place de l'humain? Quelle est dans cette grande symphonie?
Ben, il a une place assez spécifique et j'aimerais pour en parler, hein, m'appuyer sur un très beau livre que j'adore, que je relis sans cesse, parce que tellement ce qu'il porte est important, c'est Les Jardins de Findorn. Et bon, faut savoir que Michael Smorait, qui a écrit les bouquins sur les recherches du centre de Perelandra, est passé évidemment par Findorn. Alors Findorn, c'est une communauté qui existe depuis 1960, qui a été initiée par Hélène et Peter Caddy et Dorothy MacLean. Et ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé dans les jardins avec les esprits de la nature. Voilà. Et quand en 1976, Michael a commencé son travail de coopération avec les esprits de la nature, elle a beaucoup échangé avec la communauté de Findorm à l'époque. Et moi, j'adore ce bouquin qui s'appelle « Les jardins de Findorm ». C'est la collection Findorm, je pense que c'est au Souffle d'Or. Oui, c'est au Souffle d'Or. Et il y a de très, 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 très beaux textes.
C'est de quels auteurs ?
Alors, c'est un collectif, hein, du coup, il y a plusieurs personnes.
D'accord.
C'est toutes les personnes qui ont travaillé au jardin de Findorn.
Qui se situe où ?
Et en Écosse.
D'accord.
Voilà.
Alors, vous allez nous en lire un extrait.
Alors, oui, il y a beaucoup à lire, hein, dans ce bouquin. Mais là, principalement, j'aime bien ces passages qui parlent du rôle spécifique de l'homme. Alors, je ne vais pas lire tous les passages, parce qu'il y a beaucoup de passages là-dessus. Mais ce qu'ils en retiennent dans ce livre, et Michael Smorait aussi, c'est ce rôle un petit peu particulier que l'homme a en tant que créateur. Voilà. Hein, que passeur d'informations entre différents mondes.
D'accord.
Voilà. Et je vais vous lire un petit passage. Mmh. L'homme représente une forme plus complexe et potentiellement plus évoluée, une conscience qui possède une gamme plus large de possibilités créatrices que les autres règnes de la nature vivante, qui sont les devas, les élémentaux. Eux-mêmes sont néanmoins à leur manière en plus parfaite harmonie avec leur évolution et leur mission. Alors il faut retenir en effet cette capacité créatrice. L'homme a la faculté de dépasser les schémas préétablis, de relier les dimensions matérielles et spirituelles, le présent et le futur, l'essai et la réalisation complète. L'homme apprend à devenir un jardinier sur tous les plans, à tous les niveaux, comment co-créer avec la vie, comment recréer la terre. C'est assez général comme explication. Après, il y a beaucoup de textes, hein, soit des esprits de certaines plantes, soit des intelligences de la nature, qui rentrent plus dans les détails pour expliquer les rôles de chacun, mm-hmm. les rôles des élémentaires, le rôle des devas, le rôle des humains, etc. Mais l'humain a principalement un rôle en fait, de lien entre ces différents mondes. C'est-à-dire que nous, on a dans notre conception occidentale, un peu une projection. Hein, on pense que les mondes invisibles sont un peu comme des plans où tout le monde se connaît. On a un peu une vision angélique, hein, si je peux dire. Et en fait, on se trompe complètement. C'est un peu comme dans le monde humain. Mm-hmm. Hein, on peut tous dire qu'à un moment, on a des atomes crochus avec quelqu'un ou qu'on n'en a pas, hein, que certaines personnes s'entendent, que d'autres ne s'entendent pas. Ben, c'est un peu pareil dans les mondes invisibles. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des mondes parallèles qui se connaissent et d'autres qui se connaissent moins. Même si ça nous paraît curieux comme conception, c'est une réalité. Et la réalité est que l'humain peut, hein, il ne le fait pas forcément, mais il peut jouer le rôle de passeur entre ces différents mondes.
C'est-à-dire que l'humain, lui, a la capacité de communiquer avec chacun d'entre eux.
C'est ça.
Ce qui n'est pas le cas pour les autres.
Pas forcément. C'est pas, je ne peux pas dire qu'il ne communique pas, mais pas forcément. Mm-hmm.
Hein, c'est... Finalement, l'humain a un grand pouvoir, du coup, créateur et de communication.
Bien sûr. Mm-hmm. Bien sûr. Hein, c'est toute la puissance dont on a peur. Hein, et toute la puissance qu'on a perdue au travers des siècles, notamment par les oppressions religieuses, hein, qui ne voulaient surtout pas...
Oui, parce qu'on ne peut pas parler de tout ça sans parler justement de, des inquisitions, de la traque aux sorcières, etc. Parce que c'était quand même, dans notre culture, il y avait beaucoup de femmes, mais pas que, des hommes aussi, qui étaient en lien avec ces forces de l'invisible, quand on repense à la figure du druide dans la culture celtique, etc. Connaissaient les esprits des plantes, connaissaient comment les marier pour fabriquer des potions magiques, etc. Il y a eu un moment où la religion notamment et le pouvoir certainement ont pris peur face au pouvoir que ça donne, la co-créativité à certains individus peut-être.
Oui, c'est tout à fait réel. Hein. Alors, vous dire vraiment jusqu'où ça remonte, ça serait difficile, mais disons que les grosses oppressions ont dû commencer à partir du 3e, 4e siècle, à peu près, bon, déjà avec les Romains. Mais y a eu des grandes décisions politiques qui ont été votées, enfin, décidées, hein, à partir du 3e, 4e siècle, où le pouvoir gouvernemental a eu décidé à ces époques-là, par exemple, de détruire, hein, les arbres.
Nous, les arbres sacrés.
Oui, les arbres sacrés. Hein. Nous, même si on a oublié depuis le temps, et puis on n'en parle pas à l'école et tout ça, hein, on vit quand même dans un monde de tabous, hein, par rapport à la nature encore chez nous. Hein.
Et, par rapport aux esprits, par rapport à tous les plans invisibles, ça c'est certain. Bien
oui,
sûr.
Oui, oui,
on
oui,
se
oui,
fait
oui.
traiter d'allumé, hein, quand on parle de tout ça, c'est qu'on déraisonne.
Complètement, complètement. Mais ça s'appuie sur des décisions que le monde occidental a déterminées, a votées.
Mmh. Alors on a décidé que tout ça, on n'en parle pas, ça reste planqué, et ceux qui en parlent, on les brûle, quoi. Donc
c'est
à
ça.
Partir de là,
c'est ça. Donc on a commencé.
C'est d'ailleurs marrant qu'on nous traite d'allumés pour ceux qui se faisaient brûler.
Au 3e et 4e siècle, les gouvernements ont commencé à voter des lois pour déjà, avant d'anéantir les humains, d'anéantir les pratiques. Hein, donc les arbres sacrés ont été complètement dégommés, tous les lieux de rituels païens ont été interdits, hein, et puis comme ça suffisait pas, après
les dates étaient interdites,
et puis ensuite les personnes, quoi, hein. Donc là on rentre déjà au 9e, 10e siècle, où toute expression du divin, même sous forme naturelle, ont été exterminés. Bon, après,
il n'y avait plus qu'une seule voie pour le sacré, c'était celle décidée par le pouvoir, et tout le reste, c'était bon.
Voilà, c'était la voie religieuse unique. Et voilà.
Donc là, à travers la co-créativité, c'est aussi une invitation à redécouvrir le sacré dans tout ce qui nous entoure. Dans les plantes, dans les insectes,
en nous-mêmes, dans tout ce qui est manifesté. C'est une vision très très large, hein, la co-créativité. Alors la co-créativité ne s'appuie pas sur des pensées religieuses ou spirituelles spécifiques. Hein. Il n'y a pas de domaine de prédilection ou de croyance de prédilection. Hein. C'est beaucoup plus large que cela. Mais pour nous, peuple occidental, surmentalisé et très coupé de notre corps et de nos racines, on a besoin d'être énormément rassuré. Hein. On a en nous énormément de mémoire collective, hein, de ces époques d'inquisition où tellement de personnes ont été brûlées, torturées, etc., que c'est encore ça qui est actif, hein, dans nos mémoires, hein, même si on n'en a pas conscience, c'est encore ça qui est actif. Avant la rationalisation. Après, il y a eu, bon d'accord, le 18e, la modernité, Descartes et tout ça, quand on rajoutait une couche, hein, on est vraiment rentré dans du mécanisme, hein, du rationnel mécanique, Newton, etc., où il n'y avait plus que ça. Mais ça, c'était... Ça a enfoncé le clou, si vous voulez. Mais avant, il y avait déjà toute la perte, hein, de la connexion avec la nature, parce que de toute façon, on risquait sa vie, quoi. Hein, donc...
Alors aujourd'hui, justement, comment on fait ce retour, comment on se reconnecte à la nature? Donc ça, c'est votre cheminement, il en parle très bien. Donc au début, voilà, on découvre petit à petit, on essaye, on est surpris, on est émerveillé. Et puis petit à petit, on gagne en confiance alors?
Oui, bah heureusement, hein, sinon... Sinon, bah, je ne serais pas là aujourd'hui déjà, hein, mais je suis un bon exemple hein, de personne rationnelle, mentale, enfin bon, comme nous tous en Occident, hein, de toute façon. Hein, je ne suis pas née dans un tipi, je ne suis pas née au fin fond de l'Amazonie. Et j'ai en effet dû reconstruire énormément de confiance et énormément de
dans votre capacité de propre à vous connecter.
Bien sûr.
Sans passer par je ne sais quoi... C'était juste votre lien à la nature, quoi. Votre lien au plan.
Voilà, bah, disons que cette méthode, moi, m'a vraiment permis d'aborder ce domaine, cette reconnexion avec confiance, structure et sécurité.
Hein,
parce que c'est pas la seule voie. La voie la plus directe, c'est le chamanisme. Hein, voilà. Mais bon, le chamanisme, on entend parler à toutes les sauces, néo-chamanisme, chamanisme ancestral, enfin bon, c'est
un peu de tout là-dedans.
Il y a une vague, oui, qui depuis une vingtaine d'années est très prolifique et c'est très juste, hein, c'est très juste. Mais bon, ça fait encore peur.
Oui.
Hein, c'est quand même un domaine qui fait peur. Alors que là, dans cette méthode-là, on est vraiment dans une méthode très sécuritaire parce qu'elle se rapproche de notre conception occidentale de la vie.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux petits exemples frappants de choses qui vous sont de pratiques que vous avez réalisées et qui ont eu des conséquences fortes?
Oui, alors j'en ai plein, hein. J'en ai des dizaines et des dizaines, mais je peux en témoigner de deux, hein, assez léger, puis un que j'ai vécu vraiment avec beaucoup de précision. Bon, d'abord, il y a tout ce que j'ai pu vivre et que je continue de vivre au quotidien, hein, par rapport à la méthode d'équilibrage de sol par rapport au jardin. Hein, c'est-à-dire que c'est une méthode qui m'a énormément facilité la tâche, dans le sens où moi, j'ai été horticultrice, d'accord, j'ai travaillé en professionnel, j'ai lu plein de bouquins, ok. Mais quelque part, on ne sait pas mieux que la plante, on ne sait pas mieux que le sol ce qui est bon pour lui.
Oui.
Et quand je fais un équilibrage de sol au jardin ou dans mes pots de fleurs, etc., etc., je suis enchantée et vraiment émerveillée et ravie de pouvoir faire ce qui est le plus juste pour la plante ou pour le jardin. Parce que moi, mentalement, je ne sais pas forcément.
Donc concrètement, vous demandez à la plante, est-ce que tu as besoin de ça? Et vous ressentez si c'est oui ou c'est non.
C'est
et vous faites ce que vous ressentez.
C'est ça.
D'accord.
C'est ça. Donc ça, bah, c'est un émerveillement, je peux te dire, au quotidien presque. Hein, qui est que moi, mentalement, je ne sais pas forcément choisir.
Mais oui.
Voilà. Mais par contre, si je me fie à tous les plans de conscience qui me donnent de l'information, je peux être au plus juste dans la personnalisation de l'équilibrage du sol ou de l'élixir pour la personne que je vais accompagner en thérapie, etc. Et ça me donne une précision très, très grande. Voilà, ça me permet d'avoir une précision très, très grande.
Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps et je meurs d'envie d'entendre cette anecdote, du coup.
Et la deuxième anecdote que j'ai vécue vraiment très fortement et ça m'accompagne, dans les moments où je doute encore, ça m'accompagne, hein, c'est une aventure que j'ai vécue avec les frelons.
D'accord.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde animal, évidemment, est beaucoup plus réactif et on voit beaucoup plus vite les résultats de la co-créativité, entre guillemets, on va dire, avec le monde animal qu'avec le monde végétal, qui demande des mois, des cycles, culture, etc. Et une fois, il y a plusieurs années, hein, j'avais des problèmes avec les frelons dans la maison où j'habitais, avec les enfants. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de frelons qui avaient installé leur nid dans le tuyau de poêle de la maison. Bon, c'est assez courant. Et j'avais pas envie de les tuer. Voilà, je savais que je pouvais faire venir les pompiers. Bon, c'est ce qu'on fait en général, hein, qui viennent à grand renfort de produits chimiques pour exterminer un essaim. Et j'avais pas envie de le faire de cette façon-là. Donc, je me suis connectée, comme je le fais en co-créativité très couramment maintenant, avec l'esprit des frelons, et pour lui demander mais ce qu'il était venu faire là. Parce que quand une vie s'exprime quelque part, c'est pour ou manifester un déséquilibre ou venir équilibrer.
D'accord.
Quelque chose. Et donc, le frelon m'a expliqué qu'il est... Enfin, l'esprit du frelon, hein, c'est pas le frelon en tant que...
Oui, il vous a parlé.
Voilà. Mais c'est l'âme, hein, l'âme, le groupe d'âmes des frelons, m'a expliqué qu'en effet, il y avait besoin d'amener une énergie feu sur le lieu où j'étais, ce que j'ai tout à fait compris, parce que c'est une maison en fond de comble très très humide, donc j'ai tout à fait compris que l'énergie du feu avait besoin de se manifester. Et ils m'ont demandé de faire un élixir de frelons, donc j'ai fabriqué un élixir de frelons, j'ai compris. Et ce à quoi servait cet élixir de frelon. Et ensuite, ils m'ont dit, bah, maintenant, tu vas faire un équilibrage de ton lieu de vie pour pouvoir amener l'énergie du feu de façon à pouvoir libérer la présence des frelons. Donc, j'ai fait un élixir, un co-créateur.
Un élixir de frelon, là, c'est un frelon que vous avez mis dans l'eau.
Non, c'est un transfert énergétique. Hein. On tue jamais. On tue jamais. Et moi, je ne fais plus, même les élixirs de fleurs, je ne coupe plus les fleurs.
Ah, wow.
Hein, je travaille en transfert énergétique pour être vraiment en total respect avec l'être, que ce soit une plante ou un frelon. Ouais. Voilà. Et une fois que j'ai fait cet équilibrage de sol à la maison, bah, du coup, c'est comme si à un autre niveau, ça avait libérer le frelon de ce rôle.
Oui.
Et j'ai demandé à ce que les frelons puissent s'installer ailleurs. Je leur ai proposé deux autres lieux, pas très loin d'où j'habitais. Donc il y avait un gros tilleul où ils pouvaient s'installer, et puis une grange. Et je vous jure que j'ai été très très impressionnée parce qu'en un quart d'heure, tous les frelons sont partis.
Juste après l'équilibrage que vous avez fait.
Voilà, j'ai formulé la demande. J'ai remercié, évidemment, pour ce qui m'avait été donné et de comprendre et de fabriquer. Mm-hmm. Et puis pour le lieu aussi, qui avait pu bénéficier de l'énergie du feu des frelons. Et puis, en un quart d'heure, tous les frelons sont partis. J'ai pas eu besoin, à mon grand soulagement, de les tuer d'une manière ou d'une autre.
C'est passionnant. C'est passionnant. Voilà. Merci beaucoup, Claire Devine, pour ce témoignage. Malheureusement, l'émission touche à sa fin. J'aurais aimé qu'on ait encore une heure, voire deux, pour parler de tout ça. Je trouve ça juste...
Ah, c'est un monde infini.
Et merveilleux.
On pourrait en parler pendant des heures.
Alors, pour tous ceux qui ont vraiment accroché en écoutant tout ça, ils peuvent vous contacter, notamment par votre site internet.
Voilà.
Donc, c'est tissu-de-soi.com, merci, et où vous proposez des formations donc à la co-créativité, vous proposez donc d'apprendre à fabriquer des élixirs, des produits de santé à base de plantes, et puis vous donnez aussi des conseils en naturopathie.
Voilà.
Vous êtes sur l'Argentière, hein, c'est
oui,
ça?
Oui, Chassier, c'est juste à côté, oui.
Voilà. Et est-ce que vous souhaitez donner votre numéro de téléphone?
Ah, je peux donner tout du moins le portable, c'est plus facile, hein, 06 77 71 51 98.
Et je vous remercie du fond du cœur.
Avec grand plaisir, pourvu que ça motive des gens à retourner vers eux-mêmes, à découvrir leur propre nature. En fait, c'est ce qu'on fait, hein, à travers la co-créativité, qu'on l'exerce sur le jardinage ou la santé, c'est surtout se reconnecter à sa propre nature.
My gang will get you. Retrouvez les enfants du Nouveau Monde sur Radio 16 le lundi de 18h30 à 19h30 et le jeudi de 8h à 9h. Toutes les émissions sont également accessibles sur le www.radio16.net.